Voilà, bonjour à toutes, à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Voilà, on poursuit notre parcours. Et aujourd'hui, on va avoir un cours en danse, mais que j'ai partagé en deux. Donc une première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. Et vous allez comprendre pourquoi séparer ce cours en deux. Parce qu'aujourd'hui, on va aborder le mystère pascal. Et aujourd'hui, nous allons aborder la passion de Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, nous aborderons sa résurrection. Donc, un partage de cours tout à fait, on va dire, naturel dans le thème du mystère pascal. Alors, on fait juste un retour très rapide sur la fois dernière. Donc, nous avions abordé la question de l'incarnation. Et donc, nous avons vu que l'incarnation est aussi l'acte par lequel Dieu se manifeste et se révèle. Et donc, aujourd'hui, on va voir que cet acte d'incarnation n'est pas en dehors, ne se situe pas en dehors de l'histoire du salut. Et que précisément, l'incarnation est liée à l'histoire du salut et fait partie de la révélation de Dieu. Alors, dans cette révélation, Dieu, dans l'Ancien Testament, a bien souvent montré sa puissance. Et on pourrait même dire que l'incarnation est en soi déjà un acte de puissance de Dieu. Mais avec le mystère pascal, on va découvrir que cet acte de puissance, il est tout à fait paradoxal, puisque Dieu consent de se révéler dans la faiblesse de la nature humaine. Donc on a une sorte de mise en vis-à-vis, en face-à-face, de la puissance de Dieu, de la puissance d'un Dieu qui consent à se faire, à être le plus petit, à naître dans la fragilité du petit homme à la crèche, et à être celui qui consent à mourir sur la croix, condamné à mort. Ce qui n'est quand même pas rien pour Dieu qui se révèle. Donc dans ces deux abaissements, que ce soit l'abaissement à la croix ou l'abaissement précédemment à la crèche, on a un terme pour parler de cet abaissement en théologie qui s'appelle la kénose. La kénose en grec signifie se vider. Dieu a accepté de se vider de lui-même. La kénose, ah oui, pardon, K, E accent aigu, N-O-S-E, voilà, la kénose. Et donc Dieu consent à cet abaissement. Alors aujourd'hui, on va aborder le mystère pascal, donc, et plutôt ce premier volet qui est la passion. Et je vous propose que l'on commence par donc, ce grand 1, Jésus de Nazareth. Ça c'est le plan, voilà l'introduction, Jésus de Nazareth, et qu'on commence par l'itinéraire de Jésus. Comment l'itinéraire de Jésus l'a-t-il amené à la croix, et quels sont les éléments qui ont amené Jésus à être condamné à mort? Alors on pourrait dire que tout l'itinéraire de Jésus s'inscrit dans une dynamique de rédemption. Tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus, est en vue de sauver les hommes. C'est la mission qu'il a reçue du Père. Mais cette mission, Jésus l'accomplit en toute liberté. Il n'est pas celui qui est téléguidé par le Père. C'est-à-dire qu'il va décider du début de sa mission. Et pour commencer sa mission, il se choisit des hommes. des hommes qui sont connus et qui sont connus du peuple et qui sont choisis du milieu du peuple. Donc, on peut déjà faire un retour dans l'Ancien Testament et se dire, ben, y a un parallèle. Dieu s'est aussi choisi des hommes connus du peuple qu'il a choisi parmi le peuple pour être ses messagers. Donc, avec le Nouveau Testament, le thème de l'élection, parce que Jésus choisit, est poursuivi. On continue le même thème de l'élection, qui fait partie de la révélation de Dieu. Donc, Jésus choisit des apôtres et il va choisir le début de sa prédication. C'est lui qui le décide. Il décide donc du moment de sa vie publique, qui vient tardivement, vers l'âge de 30 ans. Et donc, le début de sa vie publique, vous le savez, commence avec le baptême. Et le baptême de Jésus par Jean-Baptiste doit être compris comme une investiture royale. Dans l'Ancien Testament, on parlait d'onction, l'onction du roi, celui qui est oint. Eh bien, le baptême a aussi cette fonction d'investiture. D'ailleurs, elle est marquée, signifiée par la colombe qui descend sur Jésus-Christ et la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc on a une investiture divine directement par le Père. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Jésus est le Fils ». Non, il est directement investi par la signification signifiée par ce symbole, par la colombe, donc l'esprit, il reçoit l'esprit du Père. Et cet esprit qu'il reçoit du Père, Jésus le remettra aux mains du Père au moment de mourir. Mais on n'en est pas encore là. Donc le cœur de la prédication de Jésus, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et on peut déjà le lire dans le premier chapitre de Marc, dans les premiers versets. Alors on dit souvent que Marc, c'est l'évangéliste du secret, on dit le secret messianique. Chez Marc, quand on lit Marc, on a l'impression que les disciples ne comprennent jamais rien. Voilà, qu'ils sont un petit peu, ils comprennent jamais ce que Jésus leur dit. Et donc ce secret messianique, finalement, il tombe. Cette réputation-là, elle tombe quand on lit le verset 15. Parce que Marc écrit au verset 15 et au chapitre 1 « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Le royaume de Dieu, c'est déjà la personne de Jésus. C'est Jésus qui s'approche. Il est lui-même le royaume de Dieu sur terre. Alors, les mots de l'Évangile ne nous disent pas, ce qu'est exactement le royaume, mais on nous dit qu'il s'est approché. Seule une personne s'approche, quelque chose ne s'approche pas. Donc, la parole de Jésus, elle va se faire prédication et elle va se faire acte parce que Jésus va commencer par guérir. Et donc sa parole va être une parole qui va être une parole efficace. Et elle va être immédiatement efficace. Donc c'est une parole qui va s'accomplir en acte, par les miracles, qui sont en eux-mêmes la présence du royaume de Dieu sur terre. On l'a déjà dit ici. Jésus ne soigne pas que les corps et les esprits. Ou quand il les soigne, c'est pour bien montrer que Dieu est parmi les hommes et que quelque chose de nouveau est entré dans le monde des hommes. Et puis la parole de Jésus va se déployer dans un enseignement. Jésus va enseigner les foules. Il va enseigner ses disciples. Il y a même des fois où il va expliquer les paraboles à ses disciples pour eux et pour eux seuls. Donc les paroles, les actes, miracles et la prédication et l'enseignement de Jésus sont un tout. C'est un enseignement qui englobe tout ça. Et toute cette prédication, elle est déjà œuvre de salut. Et il faut bien comprendre la mission dans l'unité de tous ces actes et de toutes ces paroles. Donc nous en arrivons à la mission que Jésus reçoit du Père. Donc si on résumait en deux mots le premier point, la mission de Jésus, c'est l'action et la prédication. C'est ça sa mission. Et dans cette mission, Jésus doit accomplir la promesse, réaliser la promesse qui est annoncée dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il doit accomplir la promesse de salut définitivement. Et c'est en sa personne que le définitif de la révélation doit s'accomplir. Donc on voit bien que cette promesse, elle a un passé. Elle s'inscrit dans l'histoire d'Israël et dans l'Ancien Testament. Le théologien Balthazar dit, et je vous cite, donc mettez des guillemets, « Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament en même temps qu'il promet lui-même ce qu'il accomplira un jour dans le Nouveau Testament. » Donc, ce lien avec l'Ancien Testament vient nous rappeler sans cesse la filiation divine de Jésus à son Père. Et cette filiation divine, elle s'inscrit elle-même dans une dimension trinitaire, dans une relation trinitaire. Lorsque Jésus reçoit l'Esprit à son baptême et qu'il agit en liberté mais aussi en obéissance à son Père, on est bien dans une relation Père-Fils-Esprit, et que le Père et le Fils possèdent un l'Esprit qui leur est commun. Ce n'est pas un autre Esprit que celui du Père qui agit par le Fils et dans le Fils. C'est pour ça que l'on dit que la mission de Jésus relève de la dimension trinitaire. Et c'est pourquoi je vous parlais de la dimension d'investiture figurée par la descente de l'Esprit. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Cette relation trinitaire, elle est unique parce qu'elle va permettre à Jésus de parler avec autorité et de recevoir l'autorité du Père. Alors sa parole n'est pas une parole autoritaire, hein, vous voyez bien, il faut faire la différence entre parler avec autorité et faire preuve d'autoritarisme. Voilà. Il va parler avec autorité. Et souvenez-vous, même certains se demandent, mais d'où parle-t-il ? D'où tient-il cette parole d'autorité ? Et les grands prêtres et les docteurs de la loi vont s'interroger sur cette parole d'autorité. Donc Jésus va manifester à tous qu'il n'est pas seulement celui qui guérit, mais qu'il est aussi celui qui parle avec autorité face aux docteurs de la loi et face aux grands prêtres. Alors, ces paroles, ces actes ont suscité l'admiration, et quand on lit les évangiles dans les premiers récits, on peut voir qu'ils suscitent l'admiration, y compris de certains grands prêtres et de docteurs de la loi. Mais ça ne va pas durer, parce que pour certains, il est admiré, mais très vite, la manière dont il va mener sa mission et les paroles qu'il va prononcer et l'affirmation de son autorité vont très vite susciter je vais peut-être pas commencer par la haine, mais par le doute, mais enfin, il va susciter le... Bon, alors, le mot m'échappe, mais bon, voilà. Peut-être de l'inquiétude, en tout cas de l'interrogation, de la défiance, voilà, exactement. Et de cette défiance va naître la haine. Parce que Jésus ne va pas aménager son discours en fonction de son auditoire. Alors oui, bien sûr, il va l'aménager par rapport aux foules. Il ne va pas dire la même chose aux foules que celle qu'il dira à ses apôtres, à ses disciples. Mais on voit bien que dans sa manière de parler de manière autoritaire, Jésus ne va pas amoindrir sa parole. Et donc cette façon-là de se placer avec autorité va susciter la haine avant la méfiance. Voilà. Donc si on reprend un petit peu les faits, et je passe à ce point-là, les motifs de la haine. Donc Jésus a commencé par former un groupe d'hommes autour de lui, il a rassemblé les foules, enfin rien que vous ne sachiez déjà, des foules qui l'ont suivi bien souvent. Et donc, le fait qu'il guérisse et qu'il parle a suscité l'admiration et donc ça l'a rendu populaire. Et donc cette popularité-là, elle aura une incidence, pas sur la haine, mais sur la méfiance et la défiance, comme vous disiez, madame. Donc, cette popularité, elle est totalement inattendue de la part des Juifs. Mais de la part des Romains, cette popularité va susciter une très, très grande méfiance. Parce que les Romains n'aimaient pas le désordre. La religion juive était la seule qui était autorisée à être pratiquée. C'était le seul culte qui était autorisé, contrôlé, mais autorisé à être pratiqué. Donc ceux qui vont être très attentifs à la popularité de Jésus, eh bien ça va être les grands prêtres et les docteurs de la loi, c'est-à-dire les religieux qui vont voir dans la popularité de Jésus, eh bien, quel un danger, précisément, un danger pour leur propre, non pas autorité, parce qu'ils n'en avaient pas, mais leur propre pratique. Ils avaient peur d'être remis en cause par l'autorité romaine. Et puis, l'autorité romaine ne veut pas qu'il y ait du désordre dans la cité, parce que lorsque Jésus regroupe autour de lui des foules qui se déplacent et qui le suivent, pour un motif, parce que Jésus est juif, pour un motif quand même religieux, pour une prédication qui a à voir avec la religion, alors les Romains ne sont pas d'accord. Et voilà que Jésus est face à deux ennemis potentiels, les grands prêtres et les docteurs de la loi et les autorités romaines. Mais la haine ne sera pas du côté de l'autorité romaine, mais bien du côté exprimé. C'est elle qui sera exprimée par les religieux juifs, par les grands prêtres. Parce que Jésus, dans sa prédication tout à fait inédite et nouvelle, que fait-il ? Eh bien, pour les juifs, il enfreint le commandement juif du sabbat, par exemple. Il va guérir le jour du sabbat. Donc ça, c'est déjà un commandement qui est enfreint. Ensuite, il ne va pas respecter la loi de pureté, les lois de pureté, c'est-à-dire toutes les prescriptions de pureté juive. Les ablutions avant le repas. Ça sera d'ailleurs un motif de critique de la part des pharisiens contre ses disciples, contre ses apôtres. Jésus va fréquenter les pécheurs, il va même manger avec eux, il mange avec les publicains. Et il critique la loi. Ça, ce sont quatre motifs que l'on peut identifié dans sa manière de vivre, de prédire, de mener ses actes dans sa manière de vivre. C'est une vie publique. Jésus a une vie publique, donc on le voit vivre. On voit qu'il enfreint le sabbat, qu'il peut même critiquer la loi, mais surtout dans les miracles que fait Jésus, il y a vraiment pour les prêtres et les docteurs de la loi quelque chose qui est absolument impensable et invraisemblable pour eux, c'est que Jésus pardonne les péchés. Va, tes péchés sont pardonnés. Et ça, on pense à la guérison du paralytique ou à la femme adultère, ça c'est quelque chose qui est inadmissible. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et on sait bien que la représentation du pardon et de la miséricorde chez les Juifs va être totalement différente de la nouveauté du pardon et de la miséricorde de Jésus. En conséquence de quoi, l'attitude et les paroles de Jésus vont remettre en question non seulement la représentation juive de la justice de Dieu, mais la représentation de la sainteté de Dieu. Donc cela remet en cause la représentation juive de la justice de Dieu et la représentation juive de la sainteté de Dieu. Seul Dieu, en sa sainteté, peut guérir, peut pardonner les péchés surtout. Donc voilà que Jésus, qui est bien identifié quand il parle, quand il va commenter le livre d'Isaïe ou quand il parle à la synagogue, il est bien identifié, mais n'est-il pas le fils de Marie et de Joseph ? Donc il est bien identifié comme étant le fils de Marie et de Joseph, donc comme homme. Donc à aucun moment il est possible de l'identifier comme étant le fils de Dieu, et on le comprend. C'est compliqué pour les Juifs de pouvoir l'identifier autrement. Donc on voit bien que Jésus va se retrouver dans une situation très délicate, parce qu'il est à la fois rejeté par les religieux et il est mal vu par les Romains. Donc la situation est la suivante. Pour l'autorité religieuse, Jésus est une menace, et c'est une menace qu'il faut supprimer. On le voit très tôt. Voilà, les autorités religieuses cherchent à le faire mourir. Et puis pour les juifs, surtout, il n'a aucune autorité en matière de justice. Qui est-il pour pardonner les péchés ? Qui est-il pour guérir ? Et pour guérir en plus le jour du sabbat. Donc en tout point, Jésus est considéré comme celui qui est un danger. Mais les véritables motifs de la condamnation, une fois qu'on a dit ça, qu'on a identifié tous ces motifs objectifs, eh bien on peut aller du côté un peu subjectif, c'est-à-dire que les motifs de la condamnation, finalement, il n'y en a pas vraiment, parce que les motifs que trouvent les autorités religieuses, elles n'ont aucune viabilité, elles n'ont aucune crédibilité face à l'autorité romaine. Pour les Romains, ce ne sont que des questions internes à la religion juive. Ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas à trancher sur ces questions religieuses. C'est leur question qu'ils tranchent même cette question-là. Alors, les autorités religieuses, elles vont procéder par ruse et par mensonge. Donc, je vous lis, c'est un des textes que vous devez avoir, le chapitre 26, donc chapitre 26 chez Matthieu, vous voyez, on est déjà vers la fin. Il y a 28 chapitres chez Matthieu, donc on est déjà, les choses sont quand même bien enclenchées. Or, quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Donc vous voyez, il y a quand même une prudence. On ne veut pas non plus créer des troubles dans le peuple, donc attirer l'autorité romaine. Donc tout va se mettre en place ici pour l'arrestation. Tout va se mettre en place pour arrêter Jésus et le condamner. C'est notre point suivant, arrestation et condamnation de Jésus. Donc nous allons voir le premier motif. Et donc, quand on veut agir par ruse, eh bien, on va commencer par porter un faux témoignage. Donc le premier motif sera basé sur un faux témoignage que l'on peut lire dans Marc 14, chapitre 14, pardon, et verset 55. Et ensuite, je vous lirai 57-58. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Donc, et là on va poursuivre dans le verset 57-58, quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu qui disait « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de recul par rapport à ces paroles de Jésus. C'est-à-dire que les paroles, elles n'ont pas été interprétées, elles sont prises à la lettre. Et donc, prenant ces paroles de Jésus à la lettre, le premier motif de l'arrestation, ça va être la destruction du temple. Jésus aurait dit qu'il veut détruire le temple, alors qu'en fait, il parlait de son propre corps. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif se rapporte à la question du Messie, toujours chez Marc. Au verset, là maintenant, 61-62, et c'est quand le grand prêtre interroge Jésus et qui lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Donc vous voyez, Jésus ne dit pas « moi, je le suis », mais il dit « je le suis ». Et donc quand on a ce « je le suis » ou « je suis », ça fait tout de suite écho à Exode 3,14 dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc Jésus, comme dans Exode 3,14, va révéler son identité. Il révèle son identité, il dit « vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite, à la puissance de la puissance et venant avec les nuées du ciel ». Lorsque Jésus dit cette phrase, il fait référence à des psaumes, donc connus du peuple. Le psaume 110, il fait référence avec les nuées dans le ciel au livre de Daniel. Donc ça devrait faire écho pour les Juifs qui connaissent l'Écriture. Et puis quand je vous disais tout à l'heure que Marc, qui est considéré comme l'évangile du secret messianique, on ne dit pas qui est Jésus. En fait, Marc, il le dit dès le début. Marc chapitre 1, verset 1, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » En fait, Marc révèle dès le début qui est Jésus. Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc tout cela est en présence de motifs, et le deuxième motif, vous l'avez compris, Jésus dit qu'il est lui-même le Messie. Et dire qu'il est le Messie, pour les Juifs qui attendent le Messie, ne peuvent voir en Jésus, fils de Marie et de Joseph, le Messie attendu. Donc il est un imposteur. Il n'est pas celui que l'on attend. Donc le deuxième motif, c'est précisément le fait d'être un imposteur. Alors voilà, il n'est pas étonnant que l'interrogatoire, lors de l'interrogatoire de Jésus par Pilate, par exemple, la première question que lui pose Pilate, c'est, et cette question-là, elle est très particulière, parce que il lui dit pas « Es-tu le Messie ?» Il lui dit « Tu es le roi des Juifs ?»
Pourquoi, en étant le fils de Marie-Joseph, il ne pourrait pas être le Messie quand même ?
Mais parce que...
Pourquoi les Juifs ont du mal à...
Mais parce que nous, les Juifs ont du mal à comprendre que Jésus, fils de Marie et Joseph, n'est pas le Messie. Parce que précisément, nous, on peut se poser la question du pourquoi aujourd'hui, parce que nous avons la connaissance, soit par notre foi, ou par les Écritures, ou au niveau de notre activité ecclésiale, enfin tout ce qui fait que la foi nous porte à lire les Écritures. Mais à l'époque, c'est compliqué. Nous, on fait cette relecture-là et on a le recul nécessaire. Mais pour les Juifs de l'époque, c'était impossible. Le fils connu de Jésus de Marie, Jésus, fils de Marie et de Joseph, qui commence sa prédication à 30 ans, très tardivement, comment l'identifier comme étant le Messie ? Il est d'abord connu comme un homme qui aidait Joseph, charpentier. Le fils du charpentier, comment peut-il être le Messie ? Il est d'abord identifié comme ça, avant d'être identifié comme le Messie. C'est impossible pour eux. Vous voyez ? Donc c'est pas vraiment étonnant. C'est bien plus facile pour nous aujourd'hui, au titre de notre foi.
Dans cette lecture, j'avais aussi lu...
Hop, je continue. Alors, quand on regarde la question, la manière dont Pilate pose la question... Si on enlevait le point d'interrogation, on aurait une affirmation. C'est pas comme le grand prêtre « Es-tu le Messie ?» D'abord là, on est déplacé du côté de la royauté, donc ce qui est beaucoup plus adéquat de la part de Pilate, hein, puisqu'on est sous un empire, hein, donc une royauté, un empire romain. Mais c'est plutôt « Tu es le roi des Juifs ?» Vous voyez ? La forme interrogative, elle n'est pas immédiate. Si je n'y mets pas le ton, si je ne mets pas dans la forme interrogative « Tu es le roi des Juifs ?», on pourrait très bien voir une affirmation. Donc, la manière dont a été rédigé ce récit, dans le récit de la Passion, et qui a été rédigé sous forme de procès, n'est pas totalement anodin, enfin, n'est pas totalement anodine de la part des évangélistes. Et ça va être, on va arriver à ce point-là. Parce que de toute façon, quel qu'en soit ce deuxième motif, le fait d'être le Fils de Dieu, les Romains vont accuser Jésus d'être, comme je vous le disais, non seulement ça sera un imposteur pour les Juifs et ce sera un blasphémateur pour les Romains. Vous voyez, sous cet empire, cette royauté, d'une certaine façon, les Romains vont trouver là un motif, non pas seulement de condamner Jésus, mais de trouver un motif qui peut permettre de le condamner, en tout cas. Le motif qu'il est un blasphémateur, non pas contre la religion juive, mais contre l'empire et contre la religion païenne. Donc on voit bien que tous les éléments d'un procès se sont mis en place et se mettent en place à partir d'une ruse et d'un mensonge, destruction du temple pour les Juifs et un blasphème contre la religion païenne pour les Romains. Donc là, tout est possible. Oui.
Alors, sur ce que vous avez dit, oui. Vous avez dit que pour les Romains, Jésus est blasphémé contre la religion païenne.
Oui, oui, tout à fait.
Vous pouvez en dire deux mots, s'il vous plaît. Et oui. C'est quoi la religion païenne à ce moment-là ?
Les Romains croyaient, d'abord ils avaient le culte, vous avez le souvenir, des bons et des mauvais augures, il y avait des sacrifices, voilà, enfin de corbeaux, enfin d'animaux, de choses comme ça. Donc on voit bien qu'ils avaient un culte qui s'originait dans un culte païen. Et ce n'était pas un culte qui était en rapport à une révélation. Il n'y avait pas de révélation de Dieu. Donc, lorsque Jésus, à demi-mot, ou même pas tellement à demi-mot, à cette question « Tu es le roi des Juifs », la question de la royauté, elle est déjà tournée du côté de la royauté de l'empereur. Donc pour les Romains, il y a une dimension de blasphème pour eux. C'est à la fois l'empire, l'autorité romaine, mais c'est à la fois la dimension de religion païenne. Donc vous voyez, ça touche les deux dimensions. Donc les éléments qui viendront alimenter et contribuer à l'arrestation, donc les motifs de l'arrestation, sont des motifs qui vont contribuer à convoquer un procès. Et le fait que les évangélistes aient rédigé la passion de Jésus en termes, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis l'arrestation, en termes de procès, ce n'est pas tout à fait anodin. Vous voyez ? Donc ça, c'est notre point, ben, on y est. Ben non, on n'y est pas. Hop, voilà. Des récits de la passion sous forme de procès, parce que nous sommes quand même en droit de nous demander pourquoi les récits de la passion ont été écrits de cette manière-là, comme un procès. Alors, on pourrait se dire, et à juste titre, semble-t-il, que cette forme de procès, finalement, qui ont amené Jésus à être arrêté, ne constitue pas, les éléments de l'arrestation ne constituent pas ni un délit de droit commun, Jésus n'a volé personne, ni des termes d'assassinat, Jésus n'a tué personne. Donc théoriquement, un procès, c'est pour régler un problème lié au code, à la loi de la cité, quelqu'un qui a enfreint le code et la loi de la cité, droit commun, vol, et d'ailleurs les deux qui sont crucifiés avec Jésus sont des bandits de droit commun. Ce n'est pas le cas de Jésus. Donc pourquoi les évangélistes ont-ils quand même pris ce genre littéraire pour rédiger l'arrestation de Jésus ? Eh bien, c'est précisément pour montrer que le procès de Jésus est en fait une parodie de procès. C'est pour augmenter, en tout cas pour bien montrer que celui qui est condamné sans motif, sans aucun motif qui entre dans les motifs d'une condamnation ou d'un procès. Rien dans les motifs de la condamnation de Jésus ne sont en droit de susciter un procès. Donc c'est une parodie de procès. Et quand on dit parodie de procès, du coup, ça augmente la dimension d'injustice, parce que ça montre bien que celui qui est condamné et celui qui est arrêté, qui est présenté devant l'autorité romaine, eh bien, est précisément un innocent. Et que du coup, c'est un faux procès. Donc les récits sous forme de procès, on doit les interpréter aussi à partir de la mission de Jésus. Cette mission qu'il a reçue du Père. Parce que la mission de Jésus l'a mené à être arrêté, l'a mené à être condamné. À partir d'éléments qui ont amené son arrestation. Mais vous voyez qu'on ne doit pas en rester au niveau factuel. On ne doit pas simplement en rester au premier motif de la destruction du temple, ou au deuxième motif du blasphème ou de l'imposture. Ça, c'est les éléments objectifs qui ont amené Jésus à être condamné. Mais on voit bien que lorsque les récits sont écrits, après la relecture, après le mystère pascal, après la résurrection de Jésus, eh bien, l'interprétation est faite à la lumière même de la résurrection. Les disciples font le retour en arrière, ils relisent tous les événements. Et faisant cette relecture, alors les écrivains écrivent effectivement ce procès de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas passé en procès, le procès a réellement eu lieu. Mais la relecture post-pascale, c'est-à-dire la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, va permettre aux apôtres de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre la prédication que Jésus avait faite. Ils vont se souvenir que Jésus leur avait dit que par trois fois, il va mourir, il va être arrêté, il va être condamné à mort et qu'il va mourir. Vous voyez ? Cela met en route la mémoire, le souvenir et précisément la mémoire. Ça veut dire que les procès, c'est-à-dire la forme littéraire que prend le récit de procès, écrit de cette façon-là, va être pour les écrivains, pour les évangélistes, une manière de détourner le récit lui-même pour en faire une prédication. C'est-à-dire que le récit de procès devient une prédication, devient le lieu de la prédication. C'est une manière de changer, de modifier un peu les choses. Oui, il y a eu un procès qui était un faux procès. Eh bien, nous le racontons, mais en le racontant, nous en faisons aussi le lieu d'une prédication. Ça, c'est très important. Oui, madame. Et donc, nous poursuivons et nous arrivons à la passion de Jésus. C'est notre troisième point. La passion de Jésus, Jésus accepte sa mort. Parce qu'effectivement, Jésus, une fois qu'il est condamné, une fois qu'il est arrêté, qu'il est condamné, il va accepter le supplice de la croix. Et donc, lui qui est l'innocent va accepter l'humiliation de la croix. Et on l'a bien vu dans le procès. Il n'est pas condamné pour des motifs de droit commun. Il est innocent de ce qu'on l'accuse. Donc, en disant que la croix, c'est une folie pour les hommes, une sagesse et une puissance de Dieu, Paul relève à la fois le caractère inadmissible de cette condamnation humaine et en même temps, il va en souligner le mystère qui réside dans l'acceptation de Jésus d'aller vers cette mort-là, quand même. Parce qu'il va accepter de mourir précisément comme un brigand. Et donc, il va accepter de vivre et d'aller jusqu'au bout de la mort humaine. Il va assumer cette mort humaine. Pourtant, l'acceptation de Jésus allant vers sa mort et dans cette humiliation que représente la croix, parce que en plus d'être un supplice, la croix, c'était une humiliation pour l'époque. Il va montrer qu'il est en même temps fidèle à sa mission. En acceptant cette mort-là, il va jusqu'au bout de sa mission et il l'accepte. Donc ce qui est un acte extrême par lequel le Fils va assumer une mort radicale. Et cette mort radicale, cette mission aboutit à la condamnation. Alors, ça pourrait être facile pour nous de dire, finalement, si la mission de Jésus aboutit à une condamnation, alors c'est que c'est un échec. Jésus, il n'a pas fait de concession, il n'a pas revu son discours, il ne s'est pas défaussé par rapport à la condamnation du Sanhédrin ou à la condamnation de Pilate. Il est allé jusqu'au bout. Il a assumé jusqu'au bout sa mission. Et il a assumé cette condamnation. Donc Jésus, en assumant sa nature humaine et en vivant la mort, il va mourir comme un homme, Sauf que Jésus ne va pas mourir comme tous les hommes. Parce que précisément, il va mourir condamné à mort. Et ça, ça fait la différence tout de même. Il est 3h15, il n'y a pas de pause. Vous voulez une petite pause ?
Oui.
Alors, une petite pause. On va aborder le point 3.2 sur l'obéissance du Fils de Dieu, qui est précisément la forme du plus grand amour. Voilà. Une obéissance qui le mène à la croix, mais qui est quand même une preuve d'amour vis-à-vis du Père et vis-à-vis des hommes. Donc l'obéissance au Père est la voie par laquelle Jésus, le Christ, va précisément montrer à tous les hommes, de manière universelle, jusqu'où peut aller l'amour de Dieu. Il est celui par qui l'amour absolu est passé et passe. Donc amour et obéissance vont répondre à un commandement du Père. On peut lire au chapitre 10 et au verset 17 et 18 de l'évangile de Jean, « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. » Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc le Christ a consenti à mourir, mais non pas dans une résignation passive, mais en transformant ce qui est de l'ordre du consentement en un don et en un acte d'obéissance. Vous voyez, on n'est pas dans une servilité. L'obéissance de Jésus, qui le mène à la croix, n'est pas une obéissance servile, mais on doit y voir la forme la plus achevée de l'amour et la plus achevée du grand amour. Donc l'obéissance de Jésus est une grâce pour tous. Mais en même temps, ce qui est significatif, c'est pas tellement l'obéissance en elle-même que la manière dont Jésus accepte d'être obéissant au Père. C'est cette manière que la manière de Jésus de renoncer à être Dieu à la manière des hommes. Il consent d'être Dieu, mourant sur la croix, et en même temps de contredire la représentation de la puissance de Dieu que les hommes avaient. Il n'était pas possible d'imaginer que Jésus, s'il était vraiment le Fils de Dieu, puisse accepter de mourir sur une croix. Donc, il vient renverser tout cela. Il montre qu'il renonce aussi à être Dieu à la manière des hommes. Il renverse ainsi la représentation humaine de la justice divine et la représentation humaine de l'obéissance, y compris de la puissance divine. Et parlant d'obéissance, on pourrait dire que Jésus est seul, le seul à savoir ce que c'est d'être obéissant. Cette forme-là, d'être obéissant dans la souffrance de la croix. Parce que la croix, c'est la forme la plus radicale du renoncement. Donc Jésus meurt sur la croix d'une souffrance, inouïe, incommensurable. La mort de Jésus, c'est la souffrance du Fils. Donc en insistant sur la souffrance, on montre bien que Jésus n'a pas fait semblant de souffrir, qu'il a vraiment assumé cela.
Je trouve ça dur de comprendre la mort de Jésus, c'est la souffrance du Fils. Je comprends pas.
Ben, Jésus, en étant le Fils de Dieu, étant de nature humaine et de nature divine, on pourrait penser, si on envisageait uniquement la nature divine, par exemple, on pourrait penser que Jésus, puisqu'il est de nature divine, a pu faire semblant de souffrir, aurait pu ne pas assumer la mort jusqu'au bout, avoir fait semblant de mourir. Ça, c'est une hérésie. Hein, c'est le docétisme qui vient d'un terme grec que l'on dit dokeo, qui veut dire faire semblant. Eh bien, Jésus, de double nature, divine, humaine, n'a pas fait semblant de souffrir et de mourir au titre de sa nature divine. Vous voyez ? Donc, il a vraiment assumé la mort. Il est passé par la mort, de la mort humaine. Il n'est pas passé d'une autre mort. Et donc, la souffrance qu'il a vécue est vraiment la souffrance physique que ses deux compères de chaque côté de lui ont vécue, la même souffrance. Mais à cette souffrance physique s'ajoute la souffrance morale d'être abandonné, de ne pas avoir été entendu, ne pas avoir été reçu, de ne pas avoir été entendu. Donc cette souffrance, elle est totale. Et donc au moment de mourir, Jésus dit cette phrase que l'on connaît tous dans Luc 23, versets 44-46, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Donc l'esprit puissant, cet esprit d'incarnation, cet esprit qu'il a reçu du Père, qui l'investit dans cette royauté divine comme Messie, cet esprit, il le remet aux mains du Père. Donc la relation trinitaire est une relation parfaite qui s'inscrit dès l'origine du Père au Fils et du Fils au Père dans la puissance de l'Esprit, un Esprit qui leur est commun. Il y a une fidélité, il y a un amour commun. Et donc, cette fidélité, cet amour, vous voyez bien qu'elle dépasse toutes les représentations que nous avons nous-mêmes de l'obéissance, de l'amour, de la fidélité. Et donc celui qui révèle, parce qu'on parlait de juifs convertis tout à l'heure, lorsque vous me posiez vos questions, eh bien on peut voir que, et on l'a déjà dit ici, je pense, que le premier qui révèle que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, c'est un centurion romain, Marc 16, 39, celui qui est au pied de la croix, qui, voyant comment Jésus est mort, après avoir prononcé ces paroles, « Père, en tes mains, je remets mon esprit », s'écrie « Vraiment, cet homme, il était le Fils de Dieu, à la manière dont Jésus meurt. » Donc on voit bien que, même en mourant, Jésus est celui par lequel la révélation est possible, même au moment de mourir. Et je finirai par là en disant, Jésus n'est pas encore mort que déjà il pardonne. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus meurt, mais avant de mourir, déjà il pardonne. Et ça c'est important, c'est essentiel. Oui madame, je vous écoute. Oser.
À travers la souffrance du Christ en croix, se dit la souffrance de Dieu.
La souffrance de Dieu, elle se dit dans le silence de la parole à la croix. À la croix, Dieu ne parle plus. Jésus ne parle plus. Déjà, il passe devant Pilate, après la parole se tait. Jésus ne parlera plus, sinon pour s'adresser soit à Jean pour remettre Marie à Jean, soit pour remettre, soit pour pardonner, et en dernier lieu pour remettre l'Esprit dans les mains du Père. Mais le silence du Père à la croix a pu être interprété comme l'abandon, parce que l'on fait mettre dans la bouche de Jésus ce psaume, voilà, voilà, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? En fait, le Père n'abandonne pas Jésus. Il ne l'abandonne pas, il n'abandonne pas le Fils. Mais c'est parce qu'il l'aime que le Fils s'abandonne, lui, dans l'amour du Père. Vous voyez la différence ? Jésus, dans la souffrance, pour sauver et pour être sauvé, il ne peut que s'abandonner à l'amour du Père. Parce que la souffrance en elle-même n'a jamais sauvé personne. Jésus souffre, mais il ne s'abandonne pas à la souffrance. Pour supporter cette souffrance, il ne peut que s'abandonner à l'amour du Père. C'est le seul chemin, l'amour, il n'y en a pas d'autre.
C'est comme ça qu'on accouche.
Oui, mais vous voyez bien que c'est peut-être notre chemin aussi. C'est que notre seul salut, c'est de s'abandonner à l'amour et pas de s'abandonner à la souffrance. Donc la confiance dans laquelle, la confiance du Fils, la grande confiance qu'il a envers le Fils, lorsqu'il dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit », on pourrait l'associer à la parésia, à la parole authentique et vraie, et cette parole authentique et vraie, elle a fait dire au centurion, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il y avait une authenticité dans cette parole-là, une parole qui ne trompe pas. Alors, je vous propose qu'on passe à notre point 4. Pour illustrer tout ce qui a été dit, je vous propose ce Christ en croix. Voilà. Très particulier, très étonnant. C'est un Christ en croix du peintre Francisco de Zurbarán, qui est un peintre espagnol. Et si vous allez en Espagne, vous pouvez voir ce tableau qui est pratiquement de grandeur nature et qui se trouve au musée des arts de Séville. C'est le musée municipal de Séville, il est gratuit. Donc vous pouvez voir ce tableau. Voilà. Voilà. Et donc Zurbarán, c'est un peintre donc espagnol, il est andalou, il est né en 1598 et il meurt en 1664, si je me souviens bien. Et donc Zurbarán était contemporain de Velázquez. Donc c'est un peintre qui a peint beaucoup d'œuvres, des œuvres considérables, dans ce siècle que l'on appelle le siècle d'or de la peinture espagnole. Et donc Zurbarán est celui qui va changer l'orientation de la peinture. Jusqu'à présent, les peintures espagnoles, et vous avez dû en voir, sont des peintures très empreintes de dolorisme. D'ailleurs, c'était une manière de peindre, le dolorisme. Eh bien, Zurbarán va passer le style de la peinture du dolorisme au ténébrisme. C'est ce qu'on a là. Vous voyez ? C'est-à-dire que la plupart des tableaux, et Velázquez suivra également cette orientation-là, sur ce tableau, le fond du tableau est noir. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder un instant le tableau, et puis on en discute après. Voilà, on verra ce que vous en pensez, ce que vous remarquez, voilà, ce qui vous touche, ce qui vous frappe en premier dans la représentation de ce Christ en croix, ce qui vous étonne aussi. Je mettrai le tableau, je vais l'envoyer à Hélène pour qu'elle vous l'envoie.
Donc c'est en noir, noir et gris, c'est
plus ? Non, c'est en noir. Moi, j'ai vu ce tableau il y a une quinzaine d'années.
Mais
où j'étais en Espagne, donc j'allais au musée. Et donc ce tableau, il est, comment vous dire, vous êtes dans une grande salle, vous sortez de la grande salle en passant par un couloir qui tourne à angle droit, vous vous retournez et d'un seul coup vous prenez le tableau en pleine figure parce qu'il n'est pas dans une grande salle, il est dans un couloir qui n'est pas plus grand que cela, qui doit faire peut-être 2,50 m, ce qui fait que vous êtes face au tableau et vraiment... ma première réaction, et ça a été le début de mon travail théologique, ma première réaction c'était de me dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau !»
Oui.
Voilà, ça a été mes premiers mots. Et disant cela, tout de suite je me suis dit « Mais est-ce que je peux trouver que le Christ en croix est beau? Est-ce que je peux trouver de la beauté dans la crucifixion ?» Donc vous voyez bien, le questionnement, donc bien sûr que non, je ne peux pas trouver de la beauté dans la crucifixion, mais je trouve de la beauté dans Jésus, la représentation de Jésus en croix qui accepte de mourir par amour. Là, je trouve de la beauté.
Et qui est une lumière.
Et qui est une lumière, et parce que aussi, et ça ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du théologien Balthazar qui dit « Contemplant le Christ crucifié, on voit déjà le ressuscité. » Donc la beauté, elle est là. Et vous voyez bien le cheminement qu'on est obligé de faire. Donc si je regarde ce tableau, mais là moi, je vais vous laisser la parole hein, parce que c'est à vous de parler. Voilà, enfin, on peut rester encore un petit peu devant ce tableau, que vous puissiez dire ce qui vous, par exemple, ce qui vous étonne. Est-ce qu'il vous étonne? Est-ce que il vous surprend?
Moi, j'ai eu la même réaction que vous de dire, mais il est magnifique.
Oui, c'est très beau.
Voilà, donc c'est vrai de dire il est magnifique d'une scène qui est quand même une scène absolument. Mais après tout, suite à fait, ce qui m'est.
On s'écoute
Allez-y.
Ah oui, alors je vais vous donner le micro, bah super. Mais oui, on en a un, alors autant l'utiliser.
Donc je disais que la première réaction que j'ai eue quand cette image est apparue, c'est de dire il est magnifique. Et c'était vraiment le corps que je voyais. Je voyais et tout de suite après, j'ai vu la souffrance dans l'extrême tension des muscles des bras. La manière dont elles sont reproduites, et reproduites pour moi, les muscles, j'y vois un écartèlement. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment eu dans le même temps, la beauté et l'extrême souffrance. Voilà.
Alors, vous avez raison, parce que la beauté, ce qui surprend beaucoup dans les... Enfin, on a d'autres représentations de Christ en croix. Hein. Enfin, on pourrait mettre... Je ne l'ai pas là, j'aurais peut-être dû vous l'apporter, mais vous connaissez peut-être le triptyque de Grunewald, de Matthias Grunewald, ce Christ totalement torturé, piqueté de des chars de bois, voilà. Donc on a deux représentations vraiment totalement différentes. Là, la beauté, ben on va dire, c'est le corps. Regardez la puissance musculaire de ce corps. On ne pourrait pas dire... Alors effectivement, vous voyez de la tension dans les muscles qui vous fait penser, et à juste titre, qu'il y a de la souffrance. Mais regardez la proportion de ce corps, parce qu'on est face à un corps jeune, à un corps musclé, alors que souvent on est face à des représentations de corps décharnés de Jésus. On voit les côtes, on voit le sang qui coule. Là, ce n'est pas le cas. On voit bien la blessure sur le côté, mais on n'a pas le sang qui coule. Quelqu'un veut-il dire aussi quelque chose? J'irai peut-être pas jusqu'au bout avec mon micro.
Simplement, il y a deux choses qui me frappent, c'est le contraste entre la blancheur du pain, effectivement, qui évoque tout de suite la résurrection, et ça, c'est...
Ah, oui.
Et puis l'autre chose, c'est l'inclinaison de la tête du Christ, oui. Moi, qui me move beaucoup, parce que, pour moi, le mouvement de l'amour, il se trouve dans l'inclinaison de sa tête. Là, ce qui m'a frappé, c'est ça avec les bras, la partie haute du corps, et puis la blancheur du pain par contre.
Ah oui, oui. Eh bien, écoutez, c'est vraiment très important d'avoir souligné ça. Parce qu'effectivement, la blancheur du pagne vient contredire la souffrance et
la passion, toute la passion, toutes les étapes qui ont mené Jésus à la croix. Parce que le pagne est bien trop blanc pour imaginer que Jésus est tombé plusieurs fois, qu'il a saigné, qu'il est couvert de poussière. On imagine l'état, quand on lit les récits de la Passion, l'état dans lequel Jésus a été crucifié. Là, on n'a pas du tout cela. C'est pour cela que je vous disais que Zurbaran, il vient faire un pas de côté, il vient quitter la dimension de l'oriste. Donc la blancheur du pagne, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Ben, elle peut nous dire que celui qui est crucifié est l'innocent et que la blancheur du pagne vient figurer l'innocence, la pureté, le sans-péché. Donc il y a du symbole, de la figuration. Il y a des éléments qui nous disent « Mais oui, celui qui est crucifié est sans péché, il est pur de tout péché. »
Est-ce qu'on voit la marque de la lance
Oui, sur le côté ici.
D'accord.
Sur le côté.
Et est-ce qu'il était croyant, Sobral ?
Je pense, oui, parce qu'à cette époque, surtout en Espagne, la religion catholique était très, très prégnante. Elle l'a été longtemps, hein, peut-être moins depuis la mort de Franco, mais on peut considérer que jusqu'à Franco, la religion était pas remise en cause, en tout cas pas ouvertement.
C'est un acte de foi, son tableau, alors.
Oui, c'était une commande. Hein, c'était une commande. Zurbaran peignait beaucoup pour les monastères, et principalement les monastères masculins. Ce qui s'explique, c'est que les monastères féminins avaient beaucoup moins de moyens financiers pour demander des tableaux. Donc, donc il a peint beaucoup de Christ en croix. Et donc, Zurbaran, qui était très... Il était beaucoup plus... je ne dirais pas qu'il était plus connu que Velázquez, parce que Velázquez était le peintre de la cour, mais il avait une grande notoriété sur Baran, et qu'à Séville, il faisait autorité. Il avait beaucoup d'ateliers et d'élèves qui peignaient comme lui. Ben forcément, il peignait comme le maître. Le problème, c'est que des Christ en croix de cette facture-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas signés, parce que Zurbaran ne signait pas toujours ses œuvres. Et il y a celles qu'il faisait et celles que les élèves faisaient en comparant, en faisant comme le maître. Donc c'était très compliqué de réunir le catalogue des œuvres de Zurbaran. Mais cette œuvre-là, elle est signée de sa main, elle est authentifiée de sa main. Donc ça, c'est vraiment important. Puis juste pour revenir sur le visage, puisque vous pointiez le visage, madame, eh bien précisément, lorsque Zurbaran décide, parce qu'il y a toujours une intentionnalité, hein, c'est comme quand on écrit toujours avec une intentionnalité, là il fait avec une intentionnalité, lorsqu'il décide de mettre le visage dans l'ombre, parce qu'on ne voit pas l'expression de douleur sur le visage,
d'intensité de contraste entre les deux, et le corps, lui, il est quand même complètement éclairé.
C'est ça. Il y a un éclairage de ce côté-là, pas de ce côté. Le visage est juste un peu éclairé, juste un côté éclairé, et ça montre bien que Zurbaran a voulu déplacer le sentiment de la douleur. C'est-à-dire, il a voulu que le spectateur ne soit pas dans le sentiment affectif. Voilà, dans l'affectivité, dans le... Voilà. C'est très, très particulier. Et je terminerai avec juste ça, puis après je vous laisse la parole. C'est le fait que la croix ne se voit pas. La primauté du corps, le corps en premier. Le corps offert, c'est pas tant le supplice qui est important, c'est-à-dire l'objet du supplice, que Jésus lui-même. Alors, je ne pourrais pas aller jusque-là avec mon micro, mais je vous écoute.
Non, mais c'est à peu près ce que vous avez vu à Séville. C'est aussi sombre que ça.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on tombe par terre.
Ah oui, c'est aussi sombre que ça. Et lorsque Zurbaran peint, parce qu'il a peint beaucoup de saints, Saint Anselme, Saint Grégoire, enfin beaucoup de saints, c'était des commandes. c'était toujours de grandeur nature, de pied en cap. Voilà. Sainte Cécile, Sainte Lucie, voilà, avec des vêtements, des ornements très beaux, hein, vraiment très très beaux. Et c'est toujours sur un fond noir. C'est toujours comme ça. C'est très étonnant. La dernière exposition qui a eu lieu de Zurbaran.
On doit bien en avoir au Louvre, non ?
C'est possible, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui.
Il a peint un très bel agneau.
Ah ben voilà, voilà. C'est un agneau magnifique. L'agneau qui est les pattes liées comme ça, qui fait partie d'un autre ensemble de tableaux. C'est magnifique.
Il a été exposé au Louvre récemment.
C'est possible parce qu'il y a eu une exposition, mais il y a déjà.
Il y a quelques mois, c'était sur les lettres mortes.
D'accord.
Donc,
il y avait une autre exposition, c'était sur Baran et un autre Baran. Bon, je m'en souviens plus.
J'ai plus.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres.
Moi, il y a encore une remarque qui me.
Oui, dites-moi. Oui.
C'est très subjectif, mais pour moi, la tête dessine comme ça.
Oui.
C'est aussi, j'ai l'impression,
l'obéissance et la oui, c'est vraiment l'obéissance, sauf que là on est vraiment devant un Christ mort en fait. Donc le fait que le visage tombe, c'est qu'il est mort. On n'est pas dans le. On a des représentations parfois de Christ en croix qui sont vivants. Là, c'est un Christ en croix mort, hein. C'est même le titre du tableau.
Mais ce qui est fou, c'est que ça évoque quand même l'obéissance.
Enfin, oui, l'obéissance. L'obéissance, l'abandon. Alors, une autre particularité qui est une particularité de cette époque-là, c'est qu'à partir de là, on a représenté les pieds l'un à côté de l'autre, avec un clou sur chaque pied, non pas l'un sur l'autre. Donc ça, c'est le traité de Pacheco qui est repris ici. Donc voilà, il y a des choses un petit peu nouvelles quand même dans ce tableau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que vous avez déjà dit vous-même ?
Oui.
Je dirais
qu'il est en train de s'envoler.
Oui, tout à fait. Et c'est parce qu'en fait, on voit pas le lieu d'ancrage de la croix. Et ça pourrait, enfin, nous faire penser au crucifié de Dali. Vous savez, ce Christ en croix qui s'envole comme ça. Voilà, c'est magnifique. Eh bien, on a l'idée d'un élancement. Bon, alors Dali étant espagnol, on ne pourrait pas s'étonner qu'il était aussi inspiré par Zurbaran, qui était quand même connu quand même.
Moi, je voudrais vous faire une remarque.
Oui.
Je vais plomber l'ambiance.
Mais non, vite.
Je trouve que c'est insupportable à regarder.
Eh bien, vous pouvez aussi trouver cela. Alors, dites pourquoi, parce que c'est ça qui est intéressant.
Je crois que c'est une question de culture.
Oui.
Je suis protestante.
Ah oui.
Mais donc, et pour nous, c'est impossible d'avoir un Christ en croix. Et à chaque fois que je rentre dans une
église,
je vois un Christ en croix.
Oui.
Je suis saisie, mal à l'aise, pas oui. Bien, etc.
Oui.
Et dans le film qu'évoquait madame, qui s'appelle L'enlèvement de Jésus à l'époque, l'église catholique est quand même croire à la noce, et bien il y a un Christ qui descend la croix. J'ai failli sortir tellement
c'est vrai. Ouais. Alors, ce serait intéressant que vous nous disiez ce qui, justement, parce que bon, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé, moi, cette dimension, cette dimension protestante de la représentation du Christ en croix. C'est
le Christ, c'est bien plus beau.
C'est ça. Mais alors du coup, juste, mais en discutant, c'est que. C'est une manière aussi de mettre l'objet du supplice avant le Christ lui-même, peut-être.
Je ne saurais pas vous dire.
Voyez.
Je crois que c'est une question. C'est une question culturelle.
C'est pour pas voir le supplice, la représentation de la mort.
Oui, et par contre, la lecture de la passion, j'imagine que c'est pour beaucoup de personnes pareilles, mais ça me bouleverse.
Oui, mais c'est bouleversant. Mais bien sûr, bien sûr.
Je suis renversée.
Oui, mais bien sûr.
Je peux pas regarder un
Christ. Oui, oui. Mais je comprends ça. Et en même temps, il faut comprendre que c'est la personne du Christ qui est... c'est sur la personne du Christ qu'il y a toute la représentation. Il est la souffrance lui-même. Il subit la souffrance. Il subit la condamnation. Si on enlève le Christ de la croix, il ne nous reste que l'objet du supplice. Mais en même temps, et je comprends, c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans la religion catholique une dimension doloriste, voilà, de représenter la douleur comme pour mieux, oui, je ne saurais, je n'irai pas jusque-là, mais pour mieux nous happer. Mais je vous dis ça, enfin, sans plus de réflexion que ça, c'est juste par rapport à ce que vous dites qui est tout à fait juste et recevable et qui donne à penser, effectivement. Mais je pense que sur Barham, il va dans votre sens. C'est-à-dire, il n'y a pas le sang, il n'y a pas le corps décharné.
Il n'y a pas la torture.
Il n'y a pas la torture, oui, c'est ça. Il y a la blancheur du pain, il n'y a pas d'expression de douleur sur le visage. Voilà.
Il est déjà magnifique. Moi, je pense qu'on ne peut même pas présenter ça à des enfants.
C'est sûr. Oui. Ah, moi j'ai lu ça avec dans une cérémonie où j'avais amené mon petit-fils qui avait 3 ans.
Oui.
Et c'était l'abbaye de la Pambre à Bruxelles, une très belle peinture comme ça. Il ne disait rien, mais il avait peur en fait.
Bien sûr. Vrai, mais pour rejoindre ce que dit madame et ce que vous dites ici, on ne se pose pas toujours la question lorsqu'on rentre dans une église et qu'on voit vraiment un Christ, crucifié un Christ en croix, soit par une sculpture, soit par une peinture. À quel moment on s'est posé la question de ce que cela peut provoquer dans l'imagination et dans la conscience d'un enfant.
Vous
voyez,
c'est ça, et c'est quand même qui sont loin de la foi catholique.
Et bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a je parlais du triptyque de Matthias Kronwald au musée de Colmar. Où il y a ce Christ absolument terrifiant. Il est terrifiant. Je vous l'enverrai aussi. Eh bien, ce Christ-là, cette commande-là, elle a été faite pour l'hôpital des Antonins, pour les malades de l'hôpital qui souffraient de l'ergot de seigle. C'était une maladie qui décomposait les chairs. Et donc, la commande avait été faite. Eh bien, il fallait... Grunwald a représenter un Christ aussi terrifiant que celui qu'il a, donc avec les mains, les pieds déformés, le visage, le corps piqueté d'épines et tout, les chairs sanguinolentes, pour que les malades puissent dans leur souffrance s'identifier à Jésus, à dire bah, nous souffrons comme lui-même a souffert.
Il nous a rejoint
dans nos souffrances, voilà.
Comme un miroir.
Voilà, alors là, peut-être que, est-ce que l'on a cette même sensation en voyant le Christ de Zoparin? Je ne suis pas sûre. Voilà, on n'a pas cette idée qui nous rejoint, parce qu'il y a quelque chose dont la souffrance est effacée, pour faire place à une beauté, mais une beauté qui n'est pas une beauté esthétique. On est sur la beauté de l'amour, la beauté de l'abandon, la beauté de la fidélité au Père... aux hommes aussi, parce qu'il accepte de mourir comme un homme. Il descend pas de sa croix, comme le centurion un autre qui va descendre ta croix si t'es un homme. Non, il n'est pas descendu de sa croix.
Le pain et le blanc étincelant, ça fait penser à la transfiguration sur le mont Tabor.
C'est vrai. C'est très juste aussi.
Alors, ça, on ne devait pas sur les représentations avoir des choses
comme ça. Oh ben non, je pense pas. Est-ce qu'il avait un linge, j'en suis même pas certaine. Dans le summum de l'humiliation.
Depuis quand on représente, je crois qu'au début, on ne faisait pas de représentation au début des croix ou même pas.
Ah, je ne saurais pas vous dire.
Il y a les croix romains aussi.
Oui.
Il n'y a pas de souffrance.
Oui, c'est ça.
C'était Christ en gloire, au
début. Oui, ou dans une mandorle. Effectivement. Ouais, mais bon, que de la croix toute seule, je ne pourrais pas vous dire. Ça va dépasser mes compétences artistiques, mais c'est intéressant de le remarquer. Alors, on arrive à la fin de notre cours pour aujourd'hui. Alors, j'avais mis ma conclusion. Je ne sais pas si j'ai peut-être posé mes feuilles. Voilà. Alors, pour terminer, en conclusion, on pourrait se poser la question de la souffrance et l'obéissance de Jésus-Christ. Ben finalement, quelle perspective pour l'homme ? Quelle perspective pour nous ? Qu'est-ce que l'obéissance et la souffrance du Christ impliquent comme perspective ? Et à quelle obéissance ou à quel abandon ? Eh bien, l'homme et la femme, hein, on est d'accord. L'homme est-il invité au regard de la croix ? Voilà, ça, c'est des interrogations que l'on pourrait se poser. Mais j'ai déjà un peu répondu. Déjà, Jésus ne s'abandonne pas à la souffrance. Hein, je vous disais tout à l'heure, la souffrance n'a jamais sauvé personne. Donc Jésus ne peut pas s'abandonner à la souffrance. Il ne peut que s'abandonner à l'amour. Et c'est l'amour pour les hommes et pour le Père qui l'a mené à la croix. Le Christ accepte sa mort et assume la souffrance, et cela montre qu'il a pris le chemin de la confiance, confiance vis-à-vis du Père, et que la réponse du Père à la condamnation des hommes, c'est précisément la résurrection. C'est pour ça que Balthazar disait, quand on contemple le crucifié, on contemple déjà le ressuscité. Et c'est l'amour du Père qui sauvera l'humanité, qui sauvera le Fils de la souffrance. Je terminerai sur ces mots de Balthazar, dans un texte qui s'appelle « Le mystère pascal ». Il dit « Quand le Fils, le Verbe du Père est mort, personne ne peut voir le Père, l'entendre, parvenir à lui. Et ce jour-là existe où le Fils est mort et où par conséquent Dieu est inaccessible. Lorsque le Fils meurt, le Père est inaccessible. Les trois jours qui séparent la mort du Fils de la résurrection, ces trois jours de silence, mais de silence mortel, on ne peut plus accéder au Père. On accède au Père par la vie du Fils, pas par la mort. Et on accédera au Père par la vie du Fils ressuscité. C'est pour ça que le Père se tait à la croix, qu'on parle d'abandon, mais ce n'est pas un abandon. Parce que face à la souffrance du Fils, le Père ne peut que se taire. On peut transposer ça à bien d'autres moments d'expérience de nos vies. Enfin, des fois, il n'y a pas besoin de mots. Les mots sont en surplus. Il n'y a que le silence qui est requis. Eh bien, on peut dire que c'est vraiment cela. Enfin, cette phrase de Balthazar dit bien cela. Lorsque le Fils est mort, par conséquent, Dieu est inaccessible. Donc la résurrection va non seulement combler ce qu'il appelle, lui, le hiatus, mais c'est-à-dire cette rupture, qui va permettre de rendre, par la résurrection, le Père à nouveau accessible. Donc la résurrection va être la réponse à la condamnation humaine, comme je vous le disais. Elle va rétablir l'histoire du salut dans un temps qui est, par l'Église du Christ quand même, le temps, ce temps que l'on appelle le temps eschatologique. Le temps va passer dans une autre dimension. C'est-à-dire un temps qui va rompre en quelque sorte avec le temps chronologique. Oui, l'Église, elle est dans le temps chronologique, mais en même temps, elle est dans cet étirement du temps qui attend le retour du Christ.
Donc, un présent fondé sur un passé, mais qui nous amène vers l'avenir. C'est-à-dire, on va toujours de l'avant. Donc, c'est le temps de Dieu pour l'homme et le temps de l'homme en vue de Dieu. Et on amènera, c'est pour la semaine prochaine, on parlera de ce deuxième volet qu'est la résurrection. Voilà. Bon. Eh bien, bon après-midi. Merci.